au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour? C'est parce que c'est quatre fois mieux qu'une seule fois. Ben oui. Alors, belle journée, 21 juillet 2025. Une émission très chargée aujourd'hui. Alors, rapidement, je vais vous dire que dans le sud du Québec, de la région d'Ottawa, on est un peu plus frais. Mais c'est agréable, juste quelques passages nuageux. On a aussi, par contre, du ressenti dans le nord et le sud de l'Ontario. Là, ça va aller jusqu'à 27, alors que nous, c'est autour de 22 jusqu'à puis 18-19 dans l'est du Québec. Bonne nouvelle pour les gens du Manitoba, il commence à avoir de la pluie, alors espérons que ça va cesser, faire cesser les feux de forêt, bien que ça reste chaud et humide, hein, c'est 27, ressenti 33. Dans les provinces de la Saskatchewan et de l'Alberta, c'est ensoleillé à Saskatchewan, 21-22. L'Alberta, c'est de la pluie, c'est plus frais, 17-19. Vancouver, c'est quelques nuages, faible risque de pluie, 24. Et puis, à l'intérieur de la Colombie-Britannique, c'est ciel variable et un risque d'un orage, 27 degrés. Quelques nuages et de la pluie dans les provinces atlantiques. De la pluie soutenue, même à Halifax et Terre-Neuve, et d'un maximum autour de 20-21 degrés. Aujourd'hui, c'est le 21 juillet, comme je l'ai dit, c'est la journée de la Saint-Victor, martyr qui a été martyr de Marseille, qui a été décapité parce qu'il ne voulait pas renier sa foi. Et puis, quelques événements importants aujourd'hui, c'est bonne fête aux Belges. 21 juillet, c'est la fête nationale des Belges. En 1831, le roi Léopold Ier marque ses accession à son trône et donc naissance de la Belgique actuelle. Et puis...
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Eh oui, hein, c'est un petit pas pour un seul homme, mais un pas de géant pour l'humanité. C'est Neil Armstrong qu'on vient d'entendre en 1969, lorsqu'il a été avec Buzz Aldrin, les deux premiers hommes à marcher sur la Lune. Et puis c'est 2007 en Grande-Bretagne, publication de Harry Potter et les Reliques de la Mort. C'est un succès bœuf, ça a cartonné, livre de J.K. Rowling. Malheureusement, J.K. Rowling a pris un tournant dans sa vie, elle est devenue l'icône de tout ce mouvement anti-trans dans le monde. Elle finance même beaucoup de groupes pour nier l'existence des personnes trans. Dommage. Et puis, naissance célèbre, Ernest Hemingway, écrivain états-unien qui a gagné le prix Nobel de littérature. Vieux mais la mère, vous connaissez, et pour que sonne le glas. Et puis l'acteur états-unien Robin Williams, hein, on se rappelle qu'il était connu pour Good Will Hunting, le cercle des poètes disparus, et Madame Doubtfire. Ça me tente d'aller voir un peu ce qu'on vous propose aujourd'hui. D'accord. D'abord, nous, on va vous faire un petit dossier aujourd'hui sur les violences contre les personnes queer. Il y a un article de la presse qui est sorti ce week-end qui fait état là, de données de Interlink. Donc, on aura deux entrevues là-dessus aujourd'hui en deuxième partie. Et la chronique, on aura une chronique musicale avec Chantal Lavoie. Mais avant, nous allons recevoir Louis Bernis et Daniel Rioux. Salut Daniel, au téléphone.
Oui, bonjour.
On parle de quoi aujourd'hui?
Ben, je vais vous parler de quelque chose qui touche pas mal tout le monde. C'est à quoi servent nos petites manies. Et puis, c'est un bon article et peut-être une belle occasion de vous faire réfléchir. On a toutes sortes de manies, puis des fois, on s'en rend même plus compte.
Ben oui, c'est vrai. On a tout ça.
Ouais. C'est le sujet.
Louis Desbernis, on parle de quoi?
Bonjour Denis Martin, on parle aujourd'hui de choses larguées dans les airs aux États-Unis, à Hawaï par exemple, où des millions de moustiques sont largués pour aider, sauver les oiseaux. Je vous raconterai pourquoi, comment. Et toujours aux États-Unis, toujours dans les airs. À Détroit, là, c'était une pluie de billets il y a quelques jours. 20 000 $ largués dans les airs pour respecter une dernière volonté.
Bon, ben écoute, on s'en va en l'air aux États-Unis, mais dans un autre sens que celui que tout le monde comprend. On s'en va en musique.
Les Brésiliens m'ont surnommé la folle de Rio, mais les enfants me donnent un nom plus rigolo. Une de mes manies, partager mes verres d'oreilles, c'était Tata Yo-Yo, Danny Cordo. Cordy.
Oui, alors justement, je vais te blâmer pour ça. Je pense que je vais avoir ça en tête pour le restant de la journée, Mathieu. Wouhou! Évidemment, on va parler de manies. Allô, Daniel?
Oui, bonjour. Ben oui, à quoi servent donc nos petites manies? C'est un article que, paru. Moi, j'ai des archives, puis je fouille, puis Internet en est bourré concernant ce sujet-là. Alors, j'ai pris ça dans « Ça m'intéresse » du mois d'août 2020, mais quand même, c'est toujours à l'heure du jour, là. Donc, c'est une image qui a fait le tour du monde pendant la pandémie. On y voit une responsable de la santé américaine expliquant qu'il faut perdre l'habitude de se toucher le visage afin de limiter la propagation du coronavirus, là, hein, le fameux virus. Et tout de suite, en disant cela, en expliquant aux gens ce qu'en était, elle passe son doigt sur sa langue avant de tourner la page de son discours. Alors, je vais vous dire, mais combien de fois par jour on met la main dans son visage? Je vous pose la question, Denis Martin.
Ah, continuellement. C'est une deuxième nature. Je vais me frotter les yeux, gratter quelque part. Oui, c'est je ne sais pas pourquoi, mais on fait ça.
Oui, absolument, parce que c'est 23 fois par de l'heure, alors ça représente 3000 fois par jour, on se passe la main dans la face, pour toutes sortes de raisons, dont celle que vous venez de mentionner, hein, une mèche de cheveux, on se mordit les ongles, on regarde, mais c'est surtout, on aime beaucoup tripoter les muqueuses du nez, les différentes muqueuses, alors c'est toutes ces raisons-là sont bonnes pour se jouer dans la face, là, se passer la main dans la face. Mais ce sont des manies, elles surgissent souvent au pire moment, puis on a beau se raisonner, on ne sait pas comment s'en débarrasser. Il y a par exemple Jacques Chirac, qui était l'ex-président de la France, qui avait la fâcheuse manie de donner des coups de pied sous la table. Et on a quelqu'un qui est plus près, qu'on voit souvent maintenant, Kate Middleton, la conjointe du prince William, qui se ronge les ongles à tout bout de champ et même devant les photographes.
Ouais.
On n'aurait pas pensé. Nous aussi, on passe notre temps à nous mordre les lèvres, nous gratter la joue, entortiller une mèche de cheveux, etc. Et justement, c'est lors d'une étude en 2015 qui a été menée au moyen d'une caméra qu'on a pu constater que des étudiants américains se touchaient le visage 23 fois par heure. Alors, se ronger les ongles, c'est l'une des manies les plus répandues. Et selon un sondage qui a été réalisé en 2008, près d'un tiers de la population se livre à des degrés divers à ce coupable penchant. Mais on se demande d'où ça vient, cette cause-là, de se ronger les ongles. Ben, c'est une cause qui est très ancienne, parce que contrairement à nos ancêtres, on n'use pas nos ongles comme dans la nature. Eux, ils allaient travailler dans le champ, etc. Donc, ils se rongeaient les ongles pour nettoyer, pour que ce soit plus propre, alors que nous, c'est pas le cas. Ça provoque, c'est plutôt que ça repousse une gêne ou provoque une tension. On ronge nos ongles pour se débarrasser ou encore, c'est un geste qui procure un soulagement quand on a tendance à le répéter. Dès qu'une nouvelle situation de tension se présente, donc ça dégage une tension, ça nous repose un petit peu. Il y a certaines attitudes, par contre, des manies qui sont empruntées à des personnes que l'on admire. Si nous avons tant de mal à y mettre un terme, c'est qu'elles nous font du bien, ces manies-là. Et pourquoi se gratter le crâne quand rien ne nous démange? Parce que sans que nous en ayons conscience, ce geste nous aide à réfléchir. Hein? On va y réfléchir un petit peu. Ça active apparemment les terminaisons nerveuses crâniennes et stimule la réflexion. C'est une façon de se masser le cerveau. Ah bon. Et pourquoi griffons-nous sur un bout de papier quand on parle au téléphone ou sur son cellulaire? C'est peut-être parce qu'on ne voit pas notre interlocuteur. Puis comme on a du mal à fixer notre attention, ben la figure, l'arbre ou la maison que l'on dessine sert à pallier ce manque de repères visuels. Alors on se concentre. Il y a une autre manie qui procure un soulagement intense, apparemment, c'est sucer son pouce. Ah ben oui. Puis dans l'article, justement, on dit contrairement à ce que l'on croit, ce geste-là, c'est franchit souvent les portes de l'enfance. Mais non, il existe sur Facebook des groupes d'adultes qui revendiquent fièrement cette pratique. Mm-hmm. J'aimerais ça aller voir ça, mais en tout cas, c'est spécial. Ce réflexe de succion, c'est un réflexe de survie qui est tout à fait naturel, que l'on voit parfois dès l'échographie et qui perdure après la naissance. Ma fille, c'était comme ça. C'est ce que l'infirmière m'a dit. Donc, apparemment, que sucer le pouce, ça part dans l'utérus aussi. C'est une précision qu'apporte, entre autres, le psychanalyste Rodolphe Oppenheimer. L'enfant découvre alors que sucer son pouce l'aide à patienter quand il a faim. Ça le rassure, puis ça s'accompagne aussi d'une sécrétion de bêta-endorphine, donc ça calme, qui permet de gérer la douleur et de se sentir bien. Et sucer son pouce semble par ailleurs lié au contexte culturel. Il y a la frustration d'attendre un repas ou un autre moment agréable dans une société très réglée qui provoquerait cette attitude de sucer le pouce. Enfin, les manies servent souvent à déjouer ou à canaliser des émotions. Hein? On essaie à faire une petite introspection, donc l'impatience, l'ennui, le stress. Et quand on est déstabilisé face à un événement inattendu, à une question qui peut être gênante, on se touche le visage pour se rassurer, puis aussi s'assurer de son intégrité physique. Autre manière d'évacuer ses angoisses, ben, c'est se gratter. Ce qui pourrait permettre d'extirper littéralement une pensée inconsciente qui nous paraît insupportable, c'est ce que pense le psychanalyste Rodolphe Oppenheimer. Il y a certaines de nos petites habitudes sont un héritage de notre enfance. Alors, il peut s'agir d'une façon de se masser la tempe que l'on tient de son père. On a vu son papa le faire, donc on a pris l'habitude, on fait comme papa, puis on continue plus tard. Ou encore celle de pianoter sur la table comme le fait un grand frère ou sa mère ou un membre de la famille. On voit ça depuis notre tendre jeunesse. On emprunte même des attitudes au fil de la vie, je ne sais pas si c'est votre cas, mais pensez-y, à des personnages de cinéma ou à des artistes que l'on admire. On pense entre autres, il y a la génération des spectateurs qui aimait beaucoup voir Humphrey Bogart se passer le pouce sur la lèvre. Alors il y avait cette façon de faire, très swag de faire. Il y a aussi des fumeurs qui se sont mis à tenir leur cigarette entre le pouce et l'index, comme Yves Montand. Et il y en a d'autres qui vont tenir leur cigarette au bout du doigt, comme Gainsbourg.
Et pensais qu'entre le pouce et l'index, c'était justement une autre sorte de cigarette, là, celle qu'on appelle le l'herbe à Justin Trudeau, non?
Ah, il y a peut-être ça. Ah, ben oui, pourquoi pas. Et puis, tu fumes la cigarette de la même façon. Puis Gainsbourg, c'est sur le bout des doigts. Et une fois qu'on a adopté cette attitude-là, ben souvent, elle nous quitte plus. Il y a les tics, hein? Il y a les tics et les manies. Les tics de langage sont un moyen de conforter son assurance. Alors, les tics de langage, c'est dès l'adolescence, singulièrement, les petits gestes copiés aident l'individu à se construire, à exprimer sa personnalité. Tu sais, comme des mots, on va utiliser des paroles qui deviennent un mécanisme. Ça se met en place. On appelle habituellement des tics de langage. On a juste à penser, ah, c'est super, ah, là, c'est formidable.
Les Français ont une grosse manie avec du coup. Ils sont tentés de s'en défaire, par contre, j'en entends moins, là.
Ah, bon, mais c'est une bonne chose, on leur rappelle aussi. Il y a une différence entre un tic et une manie. Un tic, c'est très, très, très différent.
Ouais.
Un tic, c'est comme cligner les yeux ou tordre sa bouche, c'est incontrôlable. Alors qu'une manie, on peut la changer, soit en allant en thérapie, ou on peut prendre la bonne habitude de changer cette manie-là en faisant l'introspection. Donc, dire, bon, c'est possible. Mais un tic, c'est pas pareil. pareil. Les tics de langage, ça, on peut les changer par contre, hein. Alors, on a chacun ses mots béquilles, hein, ces petits termes qui viennent aux lèvres de manière automatique quand il cherche à conforter son assurance. Il donne l'exemple, ici, c'est assez intéressant, le président de la République française, Emmanuel Macron, sait-il, par exemple, qu'il dit sans cesse « au fond ». Alors, il y a une dame, docteur en linguistique et enseignante, qui a justement de l'Université de Sorbonne, qui a récemment observé M. Macron parler. Il avait répété 62 fois l'expression, cette expression-là, au fond, durant un discours qui a duré 1h47. Alors, c'est quand même pas mal. Les gestes et les expressions nous viennent souvent des imitations, hein, comme par exemple « genre », parce qu'on a entendu ses amis le dire. Ça va devenir un signe aussi de reconnaissance, de groupe. Les manies de langage permettent de montrer sa connivence avec des gens de son âge. Il y a chaque génération a ses mots hyperboliques qui changent environ tous les 5 ans, qu'on dit. Il y a des expressions toutes faites aussi qui proviennent du milieu professionnel. D'autres se propagent par la télé, hein? Comme par exemple « j'adore », puis c'est des caméléons, hein, tels des caméléons, c'est, nous les répétons à l'infini. Et puis justement, vous parliez du mot « du coup », ben, il y a Frédéric Pommier qui raconte qu'il s'est aperçu qu'il abusait de la locution « du coup », il l'a remplacé au moins à l'écrit par « dès lors ». Peut-on se débarrasser d'une habitude verbale ou physique? Oui, il y a des thérapies qui existent pour combattre les plus pénibles. Par exemple, celle de se ronger les ongles, ça en est une qui est assez fréquente et dont on peut se débarrasser. Le patient peut tenter de troquer une manie pénalisante contre une plus douce, explique une psychanalyste, Virginie Dillet. Il peut également chercher, en parlant avec son thérapeute, à comprendre d'où vient ce symptôme, tu sais, qui se ronge toujours les doigts. Puis, en revanche, quand les petites manies sont anodines, ben, dans le fond, vous me dites que vous en avez plusieurs. Je sais pas si Mathieu, Louis en ont beaucoup, mais c'est, quand c'est anodin, pourquoi s'en faire inutilement?
Ben moi, j'ai celle de me laver les mains continuellement. Alors, je ne compte plus le nombre de fois où je vais me laver les mains, mais depuis la pandémie, ce n'est plus un tic, c'est une bonne conduite en
Champlain. Oh, que oui. Puis vous parlez de gens célèbres. Je voulais faire une petite recherche de gens célèbres. Il y avait Beethoven qui habitait au second, puis lui, il avait la manie de se verser de l'eau sur les mains à longueur de journée pour les rafraîchir. Puis, ben imaginez-vous, les gens au rez-de-chaussée, ils avaient le droit à des infiltrations par le parquet dans leur appartement. Donc, mais par contre, on peut pardonner. Beethoven a laissé de belles œuvres.
Tout à fait. Rapidement, Mathieu, une manie peut-être?
Ouais, répondre des niaiseries à des questions personnelles.
Ah oui? Oui, on va s'en reparler après l'émission. Louis?
Moi, une qu'on m'a fait remarquer récemment, à chaque fois que je suis au téléphone, je me lève et je me mets à marcher. Je ne peux pas rester immobile quand j'ai un téléphone.
Ah, c'est intéressant. Eh bien, nous, on a... Ben, c'est tout le temps qu'on a, Daniel, mais
oui.
Merci beaucoup de nous avoir parlé de nos manies. Et cela dit, n'allez pas voir votre psychologue ou psychiatre là, juste pour des petites manies anodines. Si ça devient un problème, autrement, ben on les accepte ou on les change soi-même.
Tout à fait.
All right. Merci beaucoup, Daniel. On va tout de suite aller à Louis de Bernis. Salut, Louis.
Salut, Denis Martin.
Alors, deux sujets aujourd'hui. Allons-y par le premier. Des millions de moustiques largués dans les airs pour sauver les oiseaux. Ça, c'est aux États-Unis.
Oui, aux États-Unis, à Hawaï. Ça peut paraître contre-intuitif quand même. On se dit moustiques, oiseaux, ça ne fait pas forcément bon ménage. Je vous explique tout. Comment sauver les oiseaux des îles? C'est la question à laquelle les autorités du Pacifique à Hawaï doivent répondre, tout en ne mettant pas en danger la santé des habitants. Les autorités locales et défenseurs de l'environnement ont donc choisi de lâcher des millions de moustiques. Mais l'information qui manque, ce sont des millions de moustiques stériles sur l'archipel pour pouvoir combattre le problème. Tout remonte en fait aux années 1800 à peu près, c'est la date à laquelle les moustiques et le paludisme aviaire sont arrivés sur l'archipel du Pacifique avec les navires européens à l'époque. Mais les oiseaux des îles, les pauvres, n'ont pas développé d'immunité contre l'affection. En résulte, un effondrement, on peut le dire, des populations d'oiseaux. Certains passereaux chanteurs, par exemple, comme l'iwi rouge, qui est magnifique quand on va le voir en photo, ils ont 90% de risque de mourir s'ils sont piqués par un moustique infecté. Ils sont donc vraiment très sensibles à la maladie. Sur les 50 espèces d'oiseaux qui peuplaient autrefois les forêts hawaïennes, seules 17 ont résisté, donc il est temps d'agir. Eh bien, une coalition d'organisations baptisée Birds Not Mosquitoes, des oiseaux, pas des moustiques, appuyée par les autorités locales, ont programmé des largages de moustiques par hélicoptère, et cela fait déjà quelques années que cela dure. L'objectif, protéger les derniers volatiles. Les derniers volatiles, en fait, qui sont protégés, vivent à des altitudes un peu plus élevées auxquelles les moustiques ne se trouvent pas. Mais bien, en raison du réchauffement climatique, la population de moustiques remonte également en altitude jusqu'aux cimes et dans les montagnes hawaïennes. Les moustiques, donc, dont on parle, sont lâchés dans la nature, dans des cônes biodégradables. Ce sont des mâles, des populations de mâles sains, élevés en laboratoire, modifiés avec la technique des insectes incompatibles. Ils sont porteurs d'une souche naturelle de bactéries qui entravent la fertilité. Ce petit changement empêche l'éclosion des œufs, en fait, des femelles sauvages avec lesquelles les mâles s'accouplent. Grâce à cette petite action, la population globale doit se réduire avec le temps. Les femelles ne pondant qu'une seule fois dans leur vie, en plus, donc ça permet d'avoir un vrai impact sur la population. L'utilisation de ces moustiques stériles permet d'éviter les pesticides, hein, qui est l'autre technique à laquelle on peut penser. Vaporiser comme ça des millions de litres, bien sûr, n'est pas idéal ni pour la faune, la flore, ni pour l'humain. Enfin, pas une bonne idée. La seule chose, il faut que l'efficacité soit démontrée de cette technique, parce que la technique a été développée en Australie, elle est déjà employée dans un certain nombre de pays, 12 pays déjà dans le monde. Elle a permis notamment d'enrayer des propagations de dengue, de chikungunya, du virus Zika également chez les humains, donc il y a eu un impact certain sur les populations humaines. Le bénéfice n'est pas encore certain pour les petits volatiles, mais les scientifiques veulent quand même y croire. Hein. Ils le disent eux-mêmes, ça vaut la peine de le faire. Nous n'avons rien découvert d'autre qui puisse faire mieux à ce stade, déclare par exemple le professeur Kilpatrick, spécialiste en paludisme aviaire à l'Université de Californie. Pour Chris Farmer, directeur de ce programme, c'est la dernière chance de sauver la plupart des oiseaux chanteurs restants à Hawaï, qui sont très importants dans la culture autochtone. Depuis fin 2023, le début du programme, ce sont plus de 40 millions d'insectes qui ont déjà été lâchés au-dessus des îles. La petite nouveauté cette année, c'est que la technique est moins bruyante, on utilise moins d'hélicoptères, plus de drones pour lâcher les moustiques. Et donc, le programme continue avec ces millions de moustiques stériles largués pour protéger les oiseaux.
Je ne sais pas si ça va se rendre au Canada, mais on sait que le virus du Nil monte de plus en plus vers le nord. Et évidemment, la maladie de Lyme, elle s'est rendue vraiment partout au Québec. Moi, je me rappelle au départ, hein, c'était juste certaines régions au sud. Et les vers du cœur pour les chiens. Alors, il faut maintenant, si vous avez un chien, vous habitez dans la région de Montréal, il faut faire traiter votre chien contre les vers du cœur parce que c'est rendu ici maintenant. On peut l'attraper ici. C'est le changement climatique. Hein. Ouais. Alors...
Un autre largage dans les airs, toujours aux États-Unis, un peu plus joyeux, tout aussi anodin celui-là. C'est à Détroit que ça s'est passé il y a quelques semaines. On parle d'argent, de billets de banque. Il a plu des billets de banque le vendredi 27 juin à Détroit aux États-Unis. C'est par hélicoptère que ça a été largué. On parle de 20 000 dollars en petites coupures qui se sont soudain déversées dans les airs. On peut voir, il y a des vidéos qui circulent, des automobilistes qui circulaient notamment sur une large artère à trois voies de Détroit qui ont stoppé leur véhicule, heureusement il n'y a pas eu d'accident, pour cueillir cet argent qui tombait du ciel. La police, pas vraiment prévenue, et c'est ça qui est un peu étonnant dans l'histoire aussi, a dû intervenir, fermer la circulation pendant une trentaine de minutes dans le centre-ville de Détroit. Derrière cette opération spectaculaire, c'est un hommage posthume en fait. Ça n'était pas un coup de publicité, c'est déjà ça. C'est Darrell Thomas, mort des suites de la maladie d'Alzheimer, qui aurait demandé à sa famille de respecter cette dernière volonté. L'homme était très investi dans les quartiers défavorisés de Détroit. Il offrait régulièrement des lavages gratuits, lui qui possédait une station de lavage. Il payait également pour l'épicerie des clients dans les supermarchés du coin. Il était vraiment investi dans la communauté. Et il voulait donc, comme il l'a dit lui-même dans son testament, que son enterrement soit une célébration de la vie, pas un événement triste. Et il a donc demandé à ce que 20 000 dollars, une somme qu'il avait progressivement mise de côté ces dernières années, soit larguée dans les airs. Ça a été fait, ça a fait de nombreux heureux dans le quartier. Il n'y a pas eu aucune bagarre à déplorer, c'était vraiment magnifique, raconte par exemple une voisine. Voilà, c'est étonnant que cette opération, les autorités n'aient pas été prévenues, mais tout s'est bien passé. Et voilà la dernière volonté de ce monsieur respectée.
Ouais. Il y avait une chanson hein, sur « It's raining men », peut-être que ça pourrait être « It's raining cash ». Alléluia. Louis, tu nous quittes pour quelques semaines?
Oui, je pars en vacances. Je vous retrouverai le mois prochain avec plaisir.
Ben, c'était vraiment plaisant de t'avoir aujourd'hui à l'émission, puis bonnes vacances.
Non me moleste mosquito, non me moleste mosquito, non me moleste mosquito, retourne chez toi. Je fais la sieste moustique, arrête un peu ta musique, ne sois pas antipathique, ne me pique pas. Moustique mon vieux, tu vois trop petit, tu as des ailes, va voir du pays. J'ai un patron plus large que moi, vas-y de confiance, c'est moi qui t'envoie. Moleste mosquito, non me moleste mosquito, non me moleste mosquito, retourne chez toi. Tu me vois mélancolique, de te troubler ton pique-nique. Si tu me goûtes moustique, tu n'aimeras pas. Y a des pays pleins de volupté, pour un moustique de qualité. À Saint-Tropez, à Honolulu, tout le monde il est gros, tout le monde il est nu. Non me moleste mosquito, non me moleste mosquito, non me moleste mosquito, retourne chez toi. Je fais la sieste moustique, arrête un peu ta musique, ne sois pas antipathique, ne me pique pas.
Joe Dassin, le moustique.
Oui, une belle petite chanson qui nous rappelle des choses le fun de notre passé. Alors, je vous rappelle qu'au niveau de la météo, c'est plus frais, mais c'est quand même chaud partout dans l'est du pays. Il y a des risques d'averses et d'orages un peu partout, d'ailleurs, au pays. Alors, on se couvre au cas où, la pluie. Et après la pause, on va parler de la remontée ou de la montée des violences envers les communautés, de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
J'ai rempli le vide de mes souvenirs quand j'aurais dû oublier. On oublie de s'oublier, les mirages étrangers. Je blâme quand je revois ce sourire, mais les nuages partent en fumée, et dans la brume tout va s'éclipser. Non, ça ne me suffit plus, les souvenirs ne me suffisent plus. Plus on se cherche, plus on s'éloigne, je sens le néant de long en large. Oh, où que j'ai attendu, qu'on aille où on ne s'est pas rendu, pour revivre les jours qui nous sont tués. À travers mon silence, ne fait que détruire mon parcours. On vit la nuit pour se mettre un jour. Hors de moi, je compte sur l'autre moitié de mon existence. ne pas oublier ce qui m'entoure. Tu m'attendras, c'est à ton tour. Ça ne me suffit plus, les souvenirs ne me suffisent plus. Plus on se cherche, plus on s'éloigne. Je sens le néant de long en large. Oh, où que j'ai attendu, qu'on aille où on ne s'est pas rendu.
La violence envers les personnes des communautés de la diversité sexuelle et de la pluralité de genre est en hausse et les leaders de ces communautés lancent un cri d'alarme. Récemment, le créateur de contenu Nabil Amraoui a publié une vidéo sur TikTok dans laquelle il révèle avoir vécu une agression homophobe physique dans le village, le quartier gay de Montréal. Des individus l'auraient interpellé. C'est pas toi le Marocain qui est gay, qui fait des vidéos sur TikTok. Après avoir acquiescé, ben, il dit s'être fait violemment frapper au visage. Et puis le 5 juillet dernier, Édouard Gauthier allait rejoindre des amis dans la foule du Festival d'été de Québec. Et lorsqu'un groupe d'environ 5 jeunes adolescents lui aurait lancé des insultes homophobes avant de lui cracher dessus. Et en mai, Samuel Desbiens, intervenant pour l'organisme Trans Mauricie Centre du Québec, a lui vécu une altercation qui l'a beaucoup secoué et nous le recevons pour en parler. Samuel, bienvenue à Canal M.
Merci.
Alors, raconte-nous ce que tu as vécu donc en mai.
Bon, en fait, après mon avant-midi de travail, je me suis rendu dans un restaurant de Trois-Rivières pour commander mon repas. Donc là, je suis à la caisse en train d'attendre mon plateau là, que j'ai commandé. Et juste à côté de moi, il y a un jeune d'à peu près une trentaine d'années qui est à côté de moi finalement, qui attend lui aussi là, sa commande. Et puis là, à un moment donné, je porte un t-shirt, un genre de un polo en fait, où il y a l'inscription là, brodée Trans Mauricie Centre du Québec, c'est le nom en fait de l'organisme. Et puis trans, le mot trans est quand même assez gros, il est visible. Donc ce jeune homme-là voit le mot trans là sur mon t-shirt et il s'approche de moi là vraiment là à deux pouces de mon visage. Puis en colère, me dit vous autres les trans, vous allez bientôt disparaître. Trump et M. Cornet vont vous retourner dans votre placard. On n'a pas besoin de ça là au Québec.
Wow.
Donc j'ai figé. Puis ce qui était étonnant, c'est qu'il y avait beaucoup de monde dans le restaurant, là. C'était sur l'heure du midi. Donc les gens, il y a eu un silence de mort.
Il n'y a personne qui était intervenu à ta défense?
Pas du tout. Puis même de ma part à moi, ça a été étonnant parce que je suis quand même quelqu'un d'assez vif. D'habitude, je vais avoir une réplique là. Assez gentil habituellement pour remettre les pendules à l'heure, mais là, j'ai vraiment figé, j'ai eu peur. Pour une première fois, j'en ai reçu, là, je suis une personne trans, j'en ai reçu des commentaires, mais de cette violence-là, aussi proche de moi, les poings serrés du jeune homme me disaient, en maisant pas plus, fait que j'ai demandé mon lunch, J'allais m'asseoir dans l'auto, mais j'ai vraiment eu peur que le jeune homme parte en arrière de moi là pour venir me violenter dehors. Fait que j'ai tout de suite embarqué dans ma voiture, j'ai barré les portes, j'ai mangé mon lunch là.
Wow.
Puis ouais, c'est vraiment c'est de plus en plus violent. C'est plus juste des petits commentaires en passant dans la rue. Bon, t'as-tu vu la personne trans ou bon, il a l'air bizarre ou elle a l'air bizarre. C'est plus juste des petits commentaires comme ça.
C'est des menaces directes.
Oh, c'est des menaces claires, là. Okay. On veut plus vous voir, on veut vous voir disparaître. Oui.
Tu me permets de te demander comment tu vas aujourd'hui, après avoir vécu ça?
Ben, je vais bien parce que moi, j'ai quand même 20 ans là, de vécu dans ma transition. Je suis un homme là qui a l'air cis comme n'importe quel homme là avec la transition depuis 20 ans.
Ce qu'on appelle que t'es passing, là, comme ils disent, l'expression consacrée en anglais, là, c'est ça?
Oui, j'ai un passing parfait. Si je le dis pas, les gens ne le savent pas. C'est un simple t-shirt. Puis, tu sais, le gars, il pouvait pas savoir que j'étais trans, là. Il a prétendu que j'étais trans. Il avait raison, mais ça aurait pu être une personne genre qui était dans le teacher, puis qui était pas trans du tout, puis qui aurait reçu ça, là. C'est pas plus acceptable non plus. Fait que c'est. Moi, je vais bien. C'est sûr que je suis plus prudent.
Oui.
Tu sais, je m'emmène un deuxième t-shirt maintenant. Quand je sors du bureau, je vais me changer dans les toilettes. Quand je vais dans des lieux publics, je ne porte plus le chandail en dehors du milieu du travail. Ou si je suis obligé de le garder, parce que là, je pars de la voiture puis je m'en vais dans une école, par exemple, je m'arrange pour mettre quelque chose par-dessus mon chandail pour cacher le mot. C'est plate, c'est désolant qu'on soit obligé maintenant de recommencer à cacher... à cacher qui on est ou qui on va aider. Parce que moi, je représente aussi pas juste les personnes trans, mais j'aide ces personnes-là à mieux respirer. Fait que c'est rendu grave.
Tu as partagé cette histoire sur les réseaux sociaux. Pourquoi?
Oui. J'ai commencé à le partager, en fait, au mois de juin, dans le mois pour la fierté trans. Je le partage, puis j'écris d'autres textes aussi depuis ce temps-là, parce que je veux réveiller un peu les consciences des personnes. Je veux aussi rassembler les alliés à cette cause. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'on va avoir besoin de nos alliés pour tenir à nos voix. Parce que je vois que de plus en plus, avec ce qui se passe aux États-Unis, on sent que les gouvernements sont un peu frileux des lois là, trans, surtout pour les jeunes. On parle d'annuler les bloqueurs, on parle d'annuler les soins de santé aux jeunes avant 18 ans. Puis, je pense qu'on va avoir besoin de nos alliés avec nous pour faire entendre nos voix pour ces jeunes-là. Ça peut aller plus loin, plus loin que juste les enfants. Ça peut aller enlever les droits aux adultes aussi, mais à tout le monde. Là.
Oui, non, ça commence. On sait où ça commence, mais on ne sait plus où ça va arrêter parce qu'on enlève des droits à un groupe marginal, puis on en trouve un autre, puis on en trouve un autre. Je pense qu'il y a une expression, ils sont venus pour lui, puis à un moment donné, ben, je n'étais pas là, je ne les ai pas défendus. Puis quand ils sont venus pour moi, ben, il n'y avait personne pour me défendre. Tu vois un peu le principe.
Ouais,
Samuel, à quoi attribues-tu cette hausse de la violence? Tu as mentionné un peu la montée de la haine avec l'arrivée de Donald Trump, mais ça fait quand même un peu plus longtemps que ça. Puis même, il y a un rapport de l'ONU qui semble laisser entendre qu'il y a vraiment un grand recul, du moins pour les droits des personnes trans. Et il y en a aussi pour les personnes queer, les personnes gays et lesbiennes et tout ça. À quoi tu attribues tout ça? Les réseaux sociaux, peut-être?
Les réseaux sociaux, mais je pense qu'il y a des groupes aussi qui sont... On parle le droit des femmes, par exemple, qu'on entend là de plus en plus, les féministes qui sortent, puis qui comparent les droits des femmes avec les droits des femmes trans, par exemple. Puis, tu sais, Je pense aussi les gens ne comprennent pas c'est quoi vraiment la transidentité. Fait qu'ils ont peur de perdre leurs droits cisgenres, en fait. Ouais. Souvent, on entend souvent dire « Ah ben oui, les personnes trans ont plus de droits que nous, les personnes cisgenres », alors que c'est faux. C'est nous qui devons nous débattre pour avoir des droits, alors qu'eux n'ont pas à se débattre pour être prononcés dans leur nom... de leur nom de naissance, par exemple, ou leur, tu sais, ont pas besoin de se débattre pour leur genre, qu'ils soient femmes ou hommes. Ben, je pense que c'est un peu tout ça qui fait que les gens prennent un peu ce qui se passe dans les réseaux sociaux comme étant quelque chose de vrai, mais ils vont pas plus loin dans la réflexion ou vont pas aller lire plus loin pour essayer de comprendre que ce message-là, c'est de la désinformation. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de désinformation dans les réseaux sociaux. Puis les gens cherchent pas à avoir est-ce que c'est de l'information véridique ou s'il n'y a pas autre chose qui pourrait nous expliquer pourquoi le phénomène.
On fait face à un phénomène de désinformation. Les Français appellent ça la défox, le désinfox, ouais. J'aimerais ouais. ça t'amener sur le sens plus large parce que tu fréquentes, tu vois beaucoup de personnes trans ou de personnes non-binaires à différentes étapes de leur processus. Mm-hmm. J'aimerais ça que tu me parles un peu de leur état d'esprit vis-à-vis de tout ça, surtout qu'eux te connaissent, ils savent ce que tu as vécu. Comment ils vivent ça?
Difficilement, je te dirais. Je reçois beaucoup de personnes dans mes bureaux qui sont en questionnement sur leur genre. Donc, c'est le questionnement, c'est pas juste est-ce que je suis trans ou non-binaire ou quelque chose entre les deux, finalement. Je sais pas si je vais commencer un processus parce que ce que je vois sur les réseaux sociaux ou ce que j'entends sur les réseaux sociaux me fait peur. Est-ce que je vais me faire battre? Puis il y a aussi les parents là-dedans qui arrivent dans mon bureau puis qui me disent à mon fils ou ma fille voudrait faire une transition, mais j'ai peur, je veux pas, je veux pas qu'ils se fassent discriminer, je veux, tu sais. Les gens ont peur, puis j'ai des gens qui sont déjà dans leur processus de transition, puis qui viennent me voir, puis me disent « Moi, je vais détransitionner, c'est trop dangereux. J'ai peur. Ouais. » Je reçois de plus en plus de menaces. Puis c'est souvent sur les réseaux sociaux, là, les menaces, c'est pas nécessairement... devant une personne en vrai, mais souvent c'est, les menaces sont là, des menaces de mort, puis les jeunes sont fragiles, là, très très fragiles. Bien. Les adultes aussi.
En tout cas, bon courage, Samuel Desbiens. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.
Ben, ça m'a fait un grand plaisir, puis j'espère qu'on va pouvoir continuer à se parler sur Facebook. J'apprécie beaucoup ce que tu fais. Je suis allé voir un peu là aussi là, ton fil d'actualité, là, ce que tu as présenté déjà dans ton émission. Puis ben, merci beaucoup d'être un allié. Merci beaucoup d'être là.
Ben, merci. Ben, c'est gentil. Merci pour les bons mots.
Merci. Bonne journée à vous autres.
Au-delà des bons mots, c'est toujours du bien, mais il faut dire que Canal M, c'est sa mission de parler de l'inclusion, de la diversité et de l'équité. Ça fait partie de ce qu'on fait, c'est notre ADN. Mais je pense qu'on va poursuivre maintenant cette discussion. Je reçois Véronique Giroux, qui est directrice de la philanthropie et des communications à Interlink. Ça, c'est la ligne d'écoute des personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Bienvenue à l'émission.
Merci. Bon matin.
Véronique, on vient d'entendre le récit de Samuel Desbiens, intervenant pour l'organisme Trans-Mauricie et Centre du Québec. Ta réaction?
C'est pas surprenant nécessairement parce que nous, on le constate aussi à notre ligne d'écoute qu'il y a une forte augmentation de la détresse chez les personnes trans, de l'isolement aussi, de la discrimination. Donc, pour donner un exemple très concret, on a reçu près de 20 000 recours à notre ligne d'écoute dans la dernière année. Puis juste au niveau de la violence, là, les appels de personnes qui ont été victimes de violences ont plus que doublé dans la dernière année avec une augmentation de 110%, pour être plus précise.
Donc, ça a plus que doublé.
Ça a plus que doublé. Puis on a noté aussi au niveau de la discrimination, là, plus 308%.
Ah.
Abus psychologiques et émotionnels, on est à plus 295%. Il y a aussi une forte inquiétude sur le climat social, puis sur l'actualité, on est à plus 119%. Puis finalement, on a on a vu une augmentation des besoins en psychothérapie chez ces personnes-là, chez nos communautés LGBTQ+, avec 293% d'augmentation. Donc, c'est très triste, mais c'est pas surprenant parce qu'on le constate aussi sur le terrain.
À quoi attribuer cette hausse fulgurante? C'est quand même étonnant, là. Il me semble qu'on c'était pas comme ça il y a 2-3 ans.
Non, c'était pas comme ça il y a 2-3 ans. Il y a plusieurs causes possibles, puis c'est très complexe. Déjà, il y a le climat sociopolitique. Sans donner trop d'importance à nos voisins du Sud, on le sait très bien qu'il y a une forte polarisation aux États-Unis, puis ça a une incidence ici aussi. On constate aussi que depuis la pandémie, il y a une polarisation des discours qui s'est installée, puis les gens sont plus tournés vers eux-mêmes, sont plus isolés. Aussi, les chambres d'écho sur les médias sociaux qui sont de plus en plus nombreuses, puis ça cède place à des discours qui sont masculinistes, extrémistes, mais où une haine est vraiment décomplexée. C'est plus facile d'avoir des comportements haineux derrière un écran. Après ça, il y a le traitement des nouvelles par certains médias. Lorsque ça touche des nouvelles qui concernent les communautés LGBTQ+, on a remarqué qu'on cherche souvent à amener les sujets avec sensationnalisme ou même provocation, puis ça a un impact sur les gens.
Bien, souvent, on invite une personne trans à parler, mais on y met en pleine face quelqu'un qui n'a aucune information scientifique, mais qui va sortir un discours très haineux en même temps.
Oui.
Et là, on est en train de légitimiser ce discours-là aussi.
Exactement. Après ça, il y a même les politiciens qui ont de plus en plus des approches populistes pour faire plaisir à leur base électorale, mais malheureusement, on diabolise ou ridiculise même les personnes qui travaillent à la défense des droits. On diabolise le mot « woke », on parle d'idéologie de genre, ou même on dit qu'il y a deux genres alors que c'est complètement faux. Les personnes LGBT là, sont souvent dépeintes dans la sphère publique comme des personnes qui sont déraisonnables avec leurs demandes, plus particulièrement les personnes trans, mais ça semble être un sujet chaud et inconfortable, mais une existence, le droit d'exister, le droit de se sentir en sécurité, ça ne devrait pas être un sujet de débat. Puis on instrumentalise aussi la sécurité des enfants puis les droits des femmes, comme on l'a dit tantôt, pour diaboliser encore une fois les personnes trans, là.
Véronique, moi, ce qui m'inquiète là-dedans, on a entendu le témoignage de Samuel, et c'est pas la première fois que j'entends ça. Je vais maintenant cacher le fait que je suis une personne trans. Je vais faire en sorte que je vais retourner dans mon placard, ne serait-ce que pour pas qu'on puisse voir aucun trait de mon orientation ou de ma diversité de genre.
Oui. Non, ça, c'est déconcertant. Puis je pense que personne ne devrait se cacher. Tout le monde devrait avoir le droit d'exister dans la dignité. Puis il faudrait, dans la même veine, qu'est-ce que tu dis, il faudrait valoriser un discours qui est positif puis centré sur l'inclusion. Là. Il y a des bienfaits sociaux puis organisationnels de l'inclusion qui sont d'ailleurs prouvés. Moi, j'appellerais, en fait, on appelle Interligne on encourage, en fait, les figures politiques à rappeler l'importance des institutions qui protègent nos droits. On a des chartes pour ça. Puis il faut miser sur l'éducation. Quand on ne connaît pas quelque chose, il faut miser aussi sur l'éducation populaire pour établir les conditions d'un dialogue en société. Puis on parlait d'expertise tantôt. Là, on a des expertises très riches au Québec. On a la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et de genre. On a la chaire de recherche sur les enfants trans du Canada. On a la chaire de recherche sur le stress minoritaire. Lorsque vient le temps de parler de ces enjeux-là, on peut donner la voix aux personnes trans, mais aussi donner la voix aux experts. C'est fondamental.
Je fais une parenthèse. Demain, je reçois Martin Blais, justement, pour un autre sujet. Il y a une étude qui est en train de se faire et qu'on trouvait importante d'en parler sur les réalités des personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité de genre. Donc, oui, c'est une personne extrêmement intéressante à entendre qui a une expertise aussi.
Totalement.
Ouais. On est en train de regarder là, les causes, puis tu viens de commencer à dire qu'est-ce qu'on devrait faire. Là, je me pose des questions parce qu'il y a des livres maintenant, on voit ça aux États-Unis, mais ça commence à monter aussi, on l'a vu en Alberta, des livres qui sont bannis des écoles. L'éducation sexuelle existe peu ou pas au Canada. Il me semble là, on valorise le discours haineux sur les réseaux sociaux, même dans la politique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre tout ça? Parce que c'est un gros éléphant là, à combattre.
Oui, c'est un gros éléphant. Puis je pense que nos gouvernements ont un rôle à jouer. On a besoin de leaders, on a besoin de nos gouvernements. Puis regardez, là, ce qu'on observe, c'est une détresse qui augmente partout au Québec. Des organismes comme le nôtre fonctionnent encore à effectifs réduits. Puis il faut que les gouvernements donnent les moyens réels aux acteurs du filet social pour écouter, intervenir, former, sensibiliser, prévenir. Quand la souffrance monte, comme on le constate en ce moment, là, l'inaction comme ça, ça peut vraiment coûter cher. Puis le soutien aux organismes communautaires, c'est pas du tout un luxe. C'est un levier direct de, j'aurais quasiment envie de vous dire, de santé publique puis de cohésion sociale. Donc il faut vraiment que nos gouvernements se mobilisent. Ils ont une responsabilité collective. Puis de soutenir les personnes marginalisées, mais aussi de soutenir les organismes qui sont en première ligne.
Les organismes aussi commencent à être fatigués, non?
Ouais, ouais, les organismes.
Un manque d'effectifs et puis souvent les burn-out, c'est un problème, ça.
Oui, puis au niveau du soutien plus financier, c'est souvent ponctuel, c'est souvent fragmenté. Les organismes, on le sait, fonctionnent sur un financement souvent en projet. Donc, à chaque année, chaque deux ans, chaque trois ans, le travail de financement est à recommencer. Donc, il faut réengager des nouvelles personnes, il faut former des nouvelles personnes qui vont aller aider, aller sur le terrain, aller sensibiliser, aller faire fonctionner, par exemple, notre clinique juridique, nos programmes jeunesse. Donc, et ça, c'est pas juste le cas d'Interling, là, c'est le cas d'une panoplie d'organismes. Donc, on a besoin de la mobilisation des gouvernements, mais évidemment de personnes alliées, comme on en parlait tantôt.
Juste un exemple, là, Gris Montréal, qui est un organisme qui fait qui va dans les écoles et qui fait un peu de sensibilisation auprès des jeunes, eux aussi ont eu des données, rappelez-vous, en mai, là, de la hausse des personnes qui ne sont pas à l'aise avec des personnes de la diversité. Il y a Statistique Canada qui a sorti que les personnes de la diversité sexuelle, ça fait pas longtemps, là, étaient deux fois plus susceptibles d'avoir vécu de l'intimidation. Alors, le problème est réel.
Oui, le problème est réel, puis les impacts aussi sont réels, sont mesurables. On n'est pas les seuls qui constatent ça. Nous, on a lancé à l'été dernier un sondage pan-canadien sur la santé mentale des communautés LGBTQ+. Puis on le constate aussi, une statistique comme ça que j'ai en tête, 70 % des personnes répondantes sont inquiètes sur l'impact du climat social dans les prochaines années, puis sur les comportements hostiles envers eux. Donc, d'un côté, il y a une augmentation de l'intolérance, puis d'un autre côté, il y a des inquiétudes, puis il y a des répercussions qui sont déjà notables chez les individus concernés, là.
Alors, faire un appel aux politiciens, faire un appel aux alliés... Mm-hmm. Et puis, pour les personnes qui vivent ça puis qui commencent à retourner dans leur placard, on leur dit quoi?
Moi, je vous dirais, continuez d'être fiers, mais c'est vraiment important d'avoir des personnes alliées aussi autour de nous, là. Nous, on continue de croire qu'il y a de l'espoir malgré tout. On le voit chaque jour. Il y a des gens qui tendent la main, il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui s'engagent. Être une personne alliée aujourd'hui, là, c'est pas juste symbolique ou porter un macaron, là. C'est se lever debout puis dire « c'est assez ». Il faut arrêter. C'est envoyer un message assez essentiel. Nos droits humains, le droit à la dignité, à l'inclusion, c'est non négociable, c'est valide pour tout le monde. Puis, il faut arrêter de confondre la différence avec une menace.
Ouais.
C'est pas parce qu'on comprend pas une réalité qu'on a le droit de l'écraser. Quand une société commence à s'acharner sur une poignée de personnes, là, c'est rarement parce qu'elle va bien. Puis, un message que j'aimerais passer aujourd'hui, c'est rappelons-nous là, que la force d'une démocratie, ça se mesure pas à sa majorité. Ça se mesure à la place qu'elle accorde à ses minorités puis à la place qu'elle soutient ses minorités.
Des mots très sages, Véronique Giroux, directrice de la philanthropie et des communications à Interling. Je vous rappelle en même temps que tout ça arrive au moment où ça fait 20 ans, là, ces jours-ci, que le mariage pour tous est admis au Canada. Et à peu près à une semaine et quelques, peut-être une dizaine de jours, du début de Fierté Montréal. Alors, peut-être que ça sera l'occasion de se célébrer puis de changer un peu le mal de place.
Exactement.
Véronique, merci beaucoup.
Merci.
J'ai pris mes jambes à mon cœur pour la millième fois. Air transat dans le ciel, on s'en verra plus tard. Le temps fait bien les choses, je me souviens de ta voix. Quand je t'ai dit à bientôt, tu m'as dit au revoir. Des fuites exponentielles, parsemées d'imprévus. Tissu cicatriciel, solution décousue. Je prends une bouteille à la main et je lève les voiles. La vie comme à la cœur, dommage collatéral. Relax, prends ça un chill. Relax, prends ça un chill. Puis si on se croise à grande allée à soi, prends ça un chill. J'ai mesuré la distance entre mes pieds et les tiens. Mais courant après ma chance, j'ai perdu l'équilibre. J'ai coupé le fil funambule qui nous soutient. C'est plus dur que tu penses, mon corps est en chute libre. Relax, prends ça bien chill. Relax,
prend ça bien chill. Puis si on se croise à rue Saint-Jean à soir, prend ça bien chill.
Le panda et sa chanson Relax.
On a le temps de prendre ça bien chill, comme il dit, parce que après la pause, on va chiller encore un peu plus avec notre ami Chantal Lavoie qui va nous parler de musique classique à sa chronique, justement, musicale, musique classique.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bien, c'est le temps de parler de musique classique avec Chantal Lavoie. Bonjour Chantal.
Bonjour Denis Martin. C'est le fun
de se revoir. Oui. Alors avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
Alors c'était un extrait du dernier concert en plein air au pied de la montagne de l'Orchestre métropolitain. C'était l'an passé. Et on entendait ici la pianiste et compositrice Alexandra Strelitzky qui était au rendez-vous avec, des arrangements de Frédéric Bégin pour piano et orchestre. Alors vraiment, et là on va remettre ça cette année, hein, ce concert en plein air qui s'en vient aussi, donc fin juillet, alors on va en reparler. Et je vous parle justement de la programmation estivale de l'Orchestre métropolitain. On sait qu'à la fin de la dernière saison, là, l'orchestre est parti en tournée en Europe. Hein. Alors, c'est une tournée qui faisait suite au succès retentissant de la tournée européenne de 2017. Alors, cette année, l'orchestre se produisait à Bruxelles, Paris, Vienne, Hambourg, Baden-Baden en Allemagne. Alors, une tournée couronnée de succès. Alors là, c'est la programmation estivale. On s'est reposé un tout petit peu. Puis là, ben, on reprend. Donc, 24-25 juillet, ce jeudi, vendredi, l'Orchestre métropolitain sera au Domaine Forget avec son chef, Yannick Nézet-Séguin. Il y aura le 26 juillet le Festival des arts de Saint-Sauveur. Ça, c'est une tradition hein, pour l'Orchestre métropolitain. Ouais. Même si le festival est dédié à la danse, l'orchestre s'y produit à chaque année. Alors voilà. Puis après ça, on va entrer aussi dans les concerts à la Nodière. Et puis, il y a aussi les concerts dans les parcs, notamment au Parc Ouest Vancouver à Verdun, à l'Île des Sœurs. Et puis, il y aura ce concert au pied du Mont-Royal aussi. Alors, c'est à venir le 30 juillet. Et puis, l'Orchestre métropolitain qui va terminer la saison aussi au Festival de la Nodière le 3 août. Alors, donc, des concerts payants, effectivement, donc au Domaine Forget, là, comme je le disais, ce jeudi et vendredi. Alors, on va entendre un beau programme, notamment du Sibelius. Alors, vraiment, deuxième symphonie, notamment. Et puis, il y aura aussi un concert avec Alexandre Tarot, hein, ce grand pianiste français. Oui. Tu connais, il est vraiment charmant. Il vient nous visiter régulièrement. Il visite le Québec, là, fréquemment. Et puis, je pense qu'il nous aime beaucoup, tant mieux, nous aussi. Et puis, il va interpréter le concerto en sol de Ravel par Alexandre Tarot. Tu sais, le Domaine Forget, hein, c'est magnifique. Hein.
Oui.
Vraiment.
Donc, ça, c'est le Domaine Forget, c'est
perdu. À Saint-Irénée, dans la belle région de Charlevoix.
Quand même.
Ouais.
Mais est-ce qu'il faut aussi payer les prix d'entrée, c'est ça?
Oui, sauf que, bien évidemment, ça, c'est des concerts payants. Quand on va sur le site, là, tu vois, il y a un jardin de sculpture, pique-niquer, c'est magnifique. On peut visiter ça à l'année, le Domaine Forget, j'en ai déjà parlé durant cette chronique. Et puis, le Festival des arts de Saint-Sauveur, tu sais, c'est le directeur artistique Guillaume Côté qui s'en occupe depuis fort longtemps maintenant. Il a pris sa retraite de la danse, le plus grand danseur, sans doute, au Canada et qui s'est produit sur les plus grandes salles du monde, vraiment très respecté. Très brillant, monsieur, et tout. Et puis là, ben, on va retrouver, comme je disais, l'Orchestre métropolitain. Ensuite, le programme va se... c'est sûr qu'on n'a pas bâti des programmes à chaque fois, donc il y a des œuvres qui vont se répéter d'un festival à l'autre. Et le Festival de la Nodière, c'est encore là, complice loyal de la Nodière depuis des décennies, l'Orchestre métropolitain. Et puis donc, un rendez-vous incontournable. Et donc ça, c'est payant, mais quand on est sur la pelouse hein, de l'amphithéâtre Fernand Lindsay à Joliette, là, ben ça coûte aux alentours de 33 $, je pense. Donc, c'est quand même raisonnable. On peut y faire un pique-nique. Alors, on peut y passer du bon temps. Alors, ça coûte pas trop cher. Puis, il y a toujours l'accessibilité hein, aussi, pas en fauteuil roulant. On a toujours des places réservées. Alors, vraiment, là, vous aussi, vous pouvez toujours le signaler. Quand vous faites une réservation, vous pouvez le signaler et on peut vous accueillir quand vous avez besoin d'avoir de l'accompagnement. Concert dans les parcs. Alors, ça, c'est gratuit. Hein? Alors, ça va être pour les 150 ans de Verdun. L'Orchestre métropolitain sera le 29 juillet au Parc de West Vancouver. Et puis, alors là, on va avoir... notamment du Mendelssohn, symphonie numéro 4 dite italienne. Alors, ce compositeur qui a voyagé en Italie, qui s'est inspiré par les magnifiques paysages. Alors, ça se ressent dans la musique, forcément. Et puis, au pied du Mont-Royal, ben, comme je le disais, c'est le 30 juillet à 19h30. On peut accueillir quand même jusqu'à 50 000 personnes facilement.
Oui, tout à fait. Oui.
Alors, on est à peu près toujours dans ces eaux-là de 50 000 personnes. 10e édition cette année. Il y aura des surprises aussi au public. Là. Alors, il faudra être là pour voir quelles seront les surprises. Et puis, ben, on va clore le Festival de la Nodière le 3 août avec Tristan et Isolde, hein, ce colossal poème d'amour. Alors, c'est vraiment c'est une œuvre de Richard Wagner, fabuleuse. Et puis, c'est l'Orchestre métropolitain. Alors donc, et puis, début de la saison 26-27, le 23 septembre. Et tu sais, cette année, en 2025, Yannick Nézet-Séguin a eu 50 ans, mais ça fait 25 ans qu'il est à la tête de l'Orchestre métropolitain. Et puis, il avait 25 ans quand il a commencé. Et alors là, il a 50 ans. Voilà, c'est tout. Et puis, lui qui dirige le Metropolitan Opera de New York et l'Orchestre symphonique de Philadelphie.
Ce qui prouve qu'on a tous la dent qui allonge.
Ah, oui, c'est ça, tout le monde. Alors, on va parler du Festival d'Opéra de Québec, 14e édition. Oui, encore là, des spectacles payants, mais des concerts gratuits.
Oui.
Alors, j'essaie de mettre l'accent là-dessus pour vraiment, on veut donner la chance à tout le monde. Donc, il y a la Brigade Opéra et la Brigade Opérette qui vont sillonner les parcs des différents arrondissements de la ville de Québec. Alors ça commence ce 23 juillet là, jusqu'au 3 août. Il y a même un circuit opéra avec 5 stations. Alors, ça permet, en même temps, ça va nous permettre de découvrir découvrir le patrimoine aussi architectural, religieux. Alors ça, c'est intéressant. C'est vraiment fait aussi pour sensibiliser les gens. Et alors vraiment, on a de belles prestations en salle. D'ailleurs, on va présenter Carmen. Hein. On sait que c'était les 150 ans de la création de l'œuvre ultime de Bizet. Et puis, ça a été présenté partout dans le monde cette année. Hein. Bon, alors, et puis le 3 juin dernier, ben, c'était le 150e anniversaire de la mort de Georges Bizet, qui est décédé l'année même de la création de son chef-d'œuvre Carmen, voilà. Mmh. Alors, c'est ça. Donc, des spectacles payants, oui, au Grand Théâtre de Québec, mais des spectacles gratuits dans les parcs et dans les arrondissements. Alors ça, c'est à découvrir, activité que vous aurez, enfin, sur le site du Festival d'Opéra de Québec pour ceux qui veulent se sensibiliser à l'art lyrique. Alors, vraiment très intéressant. S'il y a de la pluie, petite pluie, à moins que ce soit très intense, là, on n'annule pas nécessairement quand c'est juste une petite pluie. Vous aurez tous les détails de toute façon là-dessus, là, sur le site. C'est très bien fait. Et puis, c'est un parcours, le circuit opéra, c'est un parcours piétonnier, hein, au cœur du centre-ville, alors, qui met en valeur justement le patrimoine musical, historique et architectural de la ville. Alors, vraiment, les brigades, là, c'est absolument rafraîchissant, inspirant, donc, pour découvrir l'art lyrique. Je continue?
Ben oui.
Hein, parce que j'ai beaucoup de... Tu sais, on est au cœur de l'été, là. Ouais. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses.
Puis c'est le fun, ces concerts en plein air, surtout quand ils sont gratuits, parce que ça permet des gens qui n'auraient pas les moyens d'aller voir en salle des œuvres extraordinaires et qui peuvent donc les découvrir là. Et
c'est
puis,
ça.
Je trouve que ça démocratise ce genre musical.
Puis tu sais, c'est une musique au cœur de la nature. Tu sais, il n'y a pas plus inspirant que cette musique-là. Vraiment, c'est fabuleux. Et je pense que, tu sais, on peut faire naître des carrières, là, juste en emmenant les enfants dans les parcs.
Sait-on jamais. Mais justement, on a du temps pour parler d'autres événements. Allons-y. Je pense qu'il y avait le festival Stradivaria.
Oui, le Stradivaria. Ça, c'est l'ancien festival des Hautes-Laurentides. Et le directeur artistique, c'est le violoniste Alexandre D'Acosta, qui aime bien démocratiser justement la musique classique. Alors, donc, et donner un accès plus abordable et même gratuit aussi à la musique classique. Alors, de sorte que les concerts, la majorité des concerts sont gratuits. Alors là, ça peut se passer un peu partout. Bon, c'est... en fait, l'ancien festival des Hautes-Laurentides, bien sûr qu'on parlait de Mont-Laurier, Tremblant, Saint-Jovite, Sainte-Agathe et autres. Et là, on est devenu un peu plus nomade, c'est-à-dire qu'on peut même on peut aller un peu partout maintenant. Il y a des spectacles à faire un peu partout, et notamment à Montréal, à l'église Saint-Viateur, à Outremont. Lui, il est payant, mais quand même, la plupart sont, comme je dis, sont gratuits. Donc, une belle programmation très diversifiée. C'est la 25e édition, en passant. Et puis, alors là, c'est présenté jusqu'au 9 août. Je vous invite à aller voir les concerts qui sont présentés. Mais là, ce 26 juillet, donc samedi, Stradivarius à Vienne. Ça, c'est à Terrebonne, sur la scène extérieure, sur l'île des Moulins. Alors, encore là, quel bel endroit pour apprécier la musique classique. Ce sera à 20h. Et puis, il y a Nathalie Choquette qui sera là. Et puis, il y a aussi sur la scène extérieure du parc de Sainte-Lucie-des-Laurentides, à Sainte-Lucie, là. Donc, autre concert qui s'en vient ce dimanche aussi, 14h30, Stradivarius baroque. Mmh. Alors, encore là, le mélange des genres, Vivaldi en version rock, et oui, Bach en boogie et soft jazz, et un canon de Pachelbel totalement réinventé. Alors, tu sais, ça donne un peu... Puis, on va aussi revisiter des œuvres de Queen, Leonard Cohen, Jimi Hendrix. Alors, tu vois, il aime bien mélanger les genres comme ça. Alors, c'est très intéressant. Et puis, il y a un site qu'il faut visiter peut-être pour se donner des idées, là. Ça s'appelle La Route des Concerts. laroutedesconcerts.com, ça, c'est le site. Et c'est un calendrier de différents concerts qui sont présentés à travers le Québec, justement. Vous avez toute la liste des diffuseurs qui présentent de la musique classique. Et tu as pas que de la musique classique, comme Ara Music, par exemple. Ça, c'est un diffuseur spécialisé à la fois en musique classique, en jazz, en musique du monde. C'est au théâtre Alphonse Desjardins à Repentigny en général. Là, tu sais, ça peut être présenté à différents moments dans l'année, mais durant la période estivale, Ara Music présente des concerts gratuits les midis Ara Music sous le préau du Centre d'art Diane Dufresne de l'Espace culturel. Magnifique endroit à découvrir.
Hein? Oui, tout à fait.
C'est beau, cet endroit-là. Là. Je pense qu'il faut vraiment aller voir. Alors, tu sais, évidemment, à longueur d'année, tu as des séries comme Son et Brioche, des concerts scolaires, en fait, tu as toutes sortes de choses. Et là, le 24 juillet, billets, là. Alors, ça s'en vient encore une fois. C'est à midi, donc gratuit, le guitariste Francis Tétu, qui sera accompagné du contrebassiste Mathieu Gagné. Alors, toute une belle programmation encore là, musique à saveur espagnole pour cette fois. Et 31 juillet, aussi à midi, corps d'âme en duo sous le préau, toujours du Centre d'art du Diane Dufresne. Et c'est gratuit encore là, à Repenti, dans la Nodière. Alors, tu vois, c'est vraiment très intéressant. Et parmi les diffuseurs, il y a concert aux îles du Bic, aussi à Rimouski. Mm-hmm. Il y a des concerts classiques au Bic. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Alors, vraiment, une belle programmation. Et le 25 juillet, là, ça, c'est ce vendredi, Passion Mexico, c'est le concert que je te disais à l'église Saint-Viateur d'Outremont sur la rue Laurier. Et puis là, il y a à Laval aussi.
Oui.
Tu sais, ils ont diffusé ça en zone musicale. Alors, c'est la 10e édition des zones musicales. Évidemment, ça, c'est des concerts de toutes sortes, là. Il y en a partout dans les parcs de la ville de Laval. Et bon, alors, c'est jusqu'au 24 août, allez voir la programmation. Et puis, il y a le 60e anniversaire de la ville de Laval qui s'en vient. Et puis, bon, je ne sais pas si je vais avoir l'occasion d'en reparler, mais le 6 août prochain, il y a un grand concert gratuit qui est offert au centre, c'est-à-dire à la Place Belle. Mais c'est gratuit. En fait, vous devez vous procurer simplement les laissez-passer. Et puis, il y a de l'animation qui commence à 17h30 à l'extérieur. Tu sais, c'est tout piétonnier là, à l'extérieur de la Place Belle, là, près du métro Montmorency. Alors, on a tout réaménagé. C'est magnifique. Alors, on peut faire un petit pique-nique avant. Et puis là, c'est à la fois... Il y a une première partie, c'est musique classique avec l'Orchestre symphonique de Laval. Deuxième partie, bien là, on tombe avec Guylaine Tremblay. Et c'est autre chose. Alors, tu sais, bien, c'est vraiment très intéressant. Probablement, je sais qu'il y a les chœurs des jeunes de Laval aussi qui seront là. Donc, probablement que Guylaine Tremblay aussi va... Pas Guylaine Tremblay, mais Guylaine Tanguay va se faire accompagner peut-être par le chœur à un moment donné, puis par l'orchestre. Alors, c'est ça. Donc, ça prend... On a un maximum de 4 laissés-passer par personne. Alors, c'est le 6... Le 6 juillet. Hein? Le 6 août, pardon.
6 août, oui.
Oui, c'est ça. Ça fait beaucoup de choses. Alors, plein de choses à découvrir. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, parce que... Ah oui, c'est la station... Ce qu'on appelle la station Momo, là.
Ouais.
Alors, tu sais, la zone extérieure piétonnière. Alors, c'est vraiment à découvrir. Hein. Et puis, il y a... on va finir avec le studio de musique ancienne.
Oui, on a le temps.
Parce qu'à Montréal, le studio de musique ancienne consacré à la musique de la Renaissance, musique du 15e et 16e siècle, musique baroque, 17e, 18e. Alors, ils ont terminé leur saison, bien sûr. Je suis allée voir. Ben, il y a eu un festival aussi où on a pu les entendre. Mais là, il y a concert ce samedi 26 juillet, concert gratuit dans la ruelle Sainte-Famille-Jeanne-Mance. Ça, c'est de Milton à Despins parce que ça va être déambulatoire en même temps. Alors, on va pouvoir à la fois avoir des musiciens, mais à la fois probablement qu'on va avoir quelques musiciens. C'est ça, plus les chanteurs du studio de musique ancienne. C'est vraiment des chanteurs fabuleux à découvrir. Ils ont tous des voix. Ça pourrait être des solistes. Chacun peut être des solistes, vraiment. Alors, on va présenter des madrigaux italiens de la Renaissance chantés en plein air là, dans les parcs du plateau Mont-Royal à la fin du jour. Ça a lieu à 18h. Donc, peut-être juste avant d'aller souper ou de se faire un pique-nique, ça peut être intéressant comme petit canapé, quoi.
Oh oui, une petite sortie entre amoureux, peut-être même aussi.
Et puis, c'est annulé en cas de pluie abondante, mais encore là, tu sais, il faut être tolérant. Là, on sort le parapluie quand il pleut un petit peu. Ah, l'autre affaire aussi pour les enfants, c'est une façon encore là de les initier, parce qu'on va accompagner ces moments d'exception de crème glacée artisanale de la maison Les Givrés aux saveurs d'Italie. Ça sera offert gratuitement.
Ah,
voilà.
On aime ça quand c'est gratuit.
Oui, c'est ça. Alors, on va se penser un petit peu avec la musique de la Renaissance, la musique baroque. On va se penser au détour d'une ruelle de Rome. Pourquoi pas, tu sais, dans nos propres ruelles à nous. Alors, c'est une façon de se faire touriste dans notre propre ville. Alors, il y en a partout, Denis Martin, des concerts, puis des concerts gratuits. Encore là aussi, surveillez ça. Ah oui, je voulais vous parler du Festival des arts de Saint-Sauveur. J'en ai pas parlé au complet, mais... Oui, c'est dédié à la danse. Je vous ai dit que l'Orchestre métropolitain était au rendez-vous, comme c'est l'habitude, là, pour un beau concert. Ça s'en vient, là. Et le Festival des arts de Saint-Sauveur, bon, pour l'accessibilité, pas de problème, encore une fois. On peut vous accueillir en fauteuil roulant, place et sièges réservés, accueil des personnes à mobilité réduite et des proposés à votre service, stationnement gratuit aussi pour les gens à mobilité réduite. Des stationnements pour eux. Et puis, il y a... ce qui est intéressant, c'est que pour les gens qui... Ah oui, il y a des performances gratuites aussi hein, de danse dans les sentiers, alors dans la programmation du Festival des arts de Saint-Sauveur. Oui, c'est dédié à la danse. Oui, il y a des concerts de danse. Pas des concerts, mais des spectacles de danse. Mais il y a aussi un événement numérique qui est très intéressant. Et pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, il faut y penser. Tu sais, on ne peut pas se déplacer. Mais sur le site du festival, ce qu'on appelle le FAS, le Festival des arts de Saint-Sauveur, il y a sur le site, on peut voir des courts-métrages de danse. C'est un événement numérique compétitif là, qui a été mis sur pied par le Festival des arts de Saint-Sauveur pour promouvoir les courts-métrages du monde entier qui mettent en valeur la danse. Alors, à travers ça, il y a la musique, bien entendu. T'sais, bon, c'est toujours intéressant. Et là, donc, il y a toute la liste, ben, il y a les finalistes et le lauréat de cette année. Et je pense que c'est le Canada qui a gagné, si je ne m'abuse. Je pense que c'est le Canada. Et puis... alors donc, on a les petites vidéos qui durent à peu près 10 minutes. Alors, si vous ne pouvez pas vous déplacer, ce n'est pas grave, allez sur le site du festival, vous allez avoir ces petites vidéos, il y en a plusieurs. Là. Alors, c'est charmant, ça dure 10 minutes et puis vous avez au moins un beau petit moment à passer. Donc là, je vais vous présenter, on a parlé du studio de musique ancienne, alors on va terminer avec eux, si vous le voulez bien.
Tout à fait.
Alors, on va entendre de la musique de Bach, alors ça va bien finir notre chronique.
Ah, merci.
Hey, merci, Denis Martel, parce que j'ai parlé tout le long. Tu ne m'as pas trop interrompu.
Ben non, ben c'était intéressant ce que tu disais. Alors, je t'ai écouté. J'écoute tout le temps, puis je me disais, je n'ai pas besoin d'intervenir. Moi, quand je n'ai pas besoin d'intervenir, je trouve ça bien.
Je trouve ça toujours, tu sais. Je manque toujours un petit peu de souffle. Je me dis, mon Dieu. Puis là, mais l'offre, elle est vraiment abondante en ce moment. Alors, que vous alliez partout dans les régions, j'en parlais des concerts au BIC. Alors, informez-vous, allez sur le site, et puis vous allez sur les différents sites, et puis vous allez avoir, comme je dis, la route des concerts, là.com, ça peut être une façon
aussi d'avoir... Un bon début pour trouver des choses.
Oui, puis c'est ça. Puis allez, n'hésitez pas à aller sur les festivals. Oui, c'est ça, un peu partout.
Ben, merci beaucoup, Chantal.
Hey, merci, Denis Martin.
Un petit tour dans l'actualité maintenant, c'est sur radiocanada.ca. Le ministère de la cybersécurité et du numérique veut y mettre fin alors que Santé Québec veut le poursuivre. Alors, c'est le même fournisseur que SACLIC, on reproche d'énormes dépassements de coûts et de retards pour éviter, on veut donc éviter la répétition d'un fiasco. Le ministère de la cybersécurité et du numérique a demandé à Santé Québec d'annuler sans délai la réalisation de son grand projet informatique. C'est ce qu'a appris donc Radio-Canada. Toutefois, Santé Québec n'est pas d'accord. Le projet du système d'information des finances, de l'approvisionnement et des ressources humaines doit unifier et centraliser les solutions informatiques du réseau de la santé, tout pour tout gérer avec un même logiciel. Donc, on parle de la paie, on parle des horaires, des achats, etc. Ça devrait coûter au départ 202 millions de dollars, donc 96 millions pour le volet finance et de l'approvisionnement et 106 millions pour le projet des ressources humaines. Selon les chiffres obtenus par Radio-Canada, le coût du volet finance et approvisionnement à lui seul est maintenant évalué à 280 millions de dollars, C'est trois fois donc l'estimation du budget de départ. Et encore, cette somme n'inclut pas les dépenses récurrentes qui doivent être échelonnées jusqu'en 2043. Santé-Québec a conclu un contrat de 408 millions de $ pour le volet finance et approvisionnement avec la firme LGS, une filiale d'IBM, la même que celle qui est impliquée dans le fiasco Saclic. Non seulement le projet a fait exploser le budget prévu, mais il prend aussi du retard, au moins 2 ans de délai pour le volet financier et approvisionnement. Quant au volet ressources humaines, c'est la grande inconnue. Aucune des soumissions reçues n'était conforme. Or, on ignore combien coûtera et combien de temps il prendra 3 ans après son autorisation par le Conseil du Trésor. Ouais, c'est quelque chose. Alors, le ministère demande de tout arrêter. Du côté de Santé-Québec, on se dit on a déjà le bras dans l'engrenage. Peut-on trouver une façon de mieux gérer et de s'assurer que ça fonctionne? Donc, un autre sujet de discussion à l'Assemblée nationale du Québec qui pourrait tenir la manchette pour les prochaines semaines.
Plus d'une semaine passée ensemble, je ne sais pas à quoi on ressemble. Les heures qu'on a passées au lit ont eu raison de notre ennui et font qu'elle est plus belle la vie. Tu tisses des étoffes de joie avec tes rires, avec ta voix. Tu fous le feu à mes combats, je ne sais pas qui gagnera, ma peur, mes vertiges ou ma foi. Je ne sais où on s'en va, je me répète qu'il ne faut pas tenter de comprendre où mènent les histoires qui valent la peine. Ton vernis à ongles est joli, tes yeux vifs et ta barbe aussi. Je suis silencieux, fasciné par tes mouvements animés de cette douce virilité. Des airs de monarque des Indes auraient déjà dû me faire craindre. Ce grand voyage étourdissant, propulsé dans le firmament, j'ai peur d'avoir mal en tombant. Je ne sais où on s'en va, je me répète qu'il ne faut pas tenter de comprendre où mènent les histoires qui valent la peine. Est-ce une passion corporelle ou l'amour à dos d'hirondelle? La distance qui nous sépare fait qu'on doit remettre à plus tard le verdict face à nos espoirs. Tu dessines des murs, des plafonds, moi je saoule avec des chansons. Séparés par un océan, on marche sur un fil d'argent, j'aimerais pouvoir être géant. Je ne sais où on s'en va, je me répète qu'il ne faut pas tenter de comprendre où mènent les histoires qui valent la peine.
Pierre Lapointe, le monarque des Indes.
Dans Le Devoir ce matin, visée par une alerte Amber, une petite fille canadienne, une fillette canadienne âgée de 9 ans, a été retrouvée morte hier dans l'État de New York. Le corps de Mélina Frantolin, âgée de 9 ans, a été découvert par des gardes forestiers, des unités aériennes et l'escouade canine dans la ville de Ticonderoga, près de la frontière du Vermont, un peu moins d'une heure de lac George. Son père, Luciano Frantolin, âgé de 45 ans, avait signalé la disparition de sa fille vers 22 heures samedi au service d'urgence du comté de Warren. Il avait alors affirmé qu'il avait été probablement victime d'un enlèvement près de la route 22, de la sortie 22, de l'autoroute 87 à Lake George. A indiqué la police de l'État de New York par voie de communiqué. Les autorités avaient alors déclenché une alerte Amber et s'étaient mises à sa recherche. À mesure que progressait l'enquête, les autorités ont cependant relevé des incohérences dans la chronologie et dans le récit des événements fournis par le père, au point d'écarter le scénario qu'il avait raconté. Juste pour vous dire que le père, donc M. Fratolin, a été arrêté par la police et doit faire face à des accusations, notamment dans cette disparition. Et puis, puisqu'on parle des États-Unis, je vous rappelle que l'achalandage au poste douanier, au poste d'immigration aux États-Unis est vraiment à son plus bas, malgré le fait que c'est du congé de la construction. Ce qui prouve peut-être que le boycott qui a été entrepris depuis que Donald Trump a annoncé des nouveaux frais douaniers pour le Canada, ben ça finit par avoir de l'effet, là, hein, on le voit. Je vous rappelle donc que la météo, c'est quand même pas mal beau partout au pays. Quelques averses sont prévues, peut-être plus en profondeur, je dirais, ou plus fortes dans les provinces atlantiques. Mais ça reste beau et chaud pour la plupart de nos régions. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde et moi-même, Denis-Martin Chabot. Je vous invite à être des nôtres demain à la même heure sur Canal M.